ceux qui se plaignent d'avoir beaucoup d'élèves en classe, je peux vous dire qu'on préfère les avoir à 35.
Alors on va déjà commencer par se présenter. Moi je suis Monsieur Sommier, donc la Sommier, professeur de mathématiques au collège et au lycée. Moi je suis Monsieur Montoir, professeur de technologie et de mathématiques en collège. Donc on va vous présenter, on va vous parler du bonheur des enfants d'être avec eux dans une classe. Ça peut être un petit peu bizarre par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis le début de la matinée, mais ça peut quand même être un vrai bonheur. Il y a vraiment des moments qui peuvent être très très intéressants. Mais avant d'arriver à des moments très très intéressants, on passe aussi par des moments qui peuvent être très compliqués, comme a dit l'intervenant juste avant. Le primaire peut être une période compliquée pour certains enfants qui n'ont pas été dépistés, qui n'ont pas été détectés, comme on voit sur la petite image. Ils peuvent nous arriver en collège avec quelques petites difficultés, quelques petites fractures. Notre rôle, ça va être sur le début du collège, réussir à remettre toutes les pièces du puzzle en forme, retrouver tous les éléments qui avaient remis au même endroit, pour réussir à avoir un enfant très intéressé, très heureux et très participatif dans son enseignement. Pour ça, on va commencer par vous parler du bonheur d'être reconnu.
Alors un point extrêmement important, hein, mais là on va revenir sur des choses qui ont déjà été dites ce matin, notamment par l'intervenante précédente, Frédéric, je crois. En fait, Frédéric a fait la conférence et nous on appelle PowerPoint. Ça nous permettra d'aller manger assez rapidement. Non, mais un des points assez importants, nous semble-t-il, pour travailler sur le stress de l'enfant précoce, notamment, c'est qu'il se sente reconnu. Donc effectivement, changer le regard qu'on a sur lui. Pour changer le regard qu'on a sur lui, ça suppose qu'on en avait déjà un. Or, nous, on accueille en collège, donc en début de sixième, parfois en début de quatrième ou même en cours d'année, hein, des élèves qu'on ne connaît pas. Donc, l'un des points essentiels, c'est d'essayer de créer une connexion humaine, une connexion personnelle avec cet élève. C'est un élève qui... nous on appelait ça la dichotomie de maturité, alors c'est peut-être un mot un peu barbare, mais tout simplement c'est un élève qui est capable de jouer à la marelle ou jouer au loup dans la cour, donc on le catalogue comme un gamin, et à côté de ça il a une maturité assez exceptionnelle, on est capable d'avoir des discours d'adultes avec lui. Créer le lien, s'intéresser à lui, se demander quels sont ses centres d'intérêt, vont lui permettre lui de se sentir immédiatement accepté et bien dans la structure qu'il accueille. On a mis quelques petits mots-clés. Hein. L'une des qualités principales, c'est les qualités que nous sommes tous censés avoir, qui est la qualité de l'empathie. Et les précoces sont des individus extrêmement empathiques, donc ils peuvent se connecter très vite, hein, pour peu que vous les mettiez en confiance. La deuxième des choses, M. Montoir, on va peut-être aller sur la bienveillance maintenant. Encore une fois, ça rejoint ce que disait Frédéric, c'est-à-dire changer de regard, ça veut dire avoir de la bienveillance pour eux par rapport à leurs actes et leurs comportements.
Quand on parle de leurs actes, ça peut être pendant un cours, on a très souvent des enfants qui peuvent être très 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 compliqués à gérer. Il faut savoir l'accepter, il faut savoir leur montrer les limites, mais pas faire preuve d'autoritarisme, ce qu'ils sont absolument incapables d'accepter. Et c'est vrai que c'est compliqué pour l'enseignant, de savoir jusqu'où l'enfant peut aller, jusqu'où on accepte les différences par rapport aux autres, sur son comportement, sur toutes les petites phrases qui peuvent être dites pendant un cours, parce que l'enseignant va dire quelque chose, l'enfant va rebondir, et forcément il va dire une bêtise. Quand on parle, ils ont toujours le bon mot.
Ou le mauvais.
Pour faire rire, sauf que c'est le bon mot pour eux, à leur âge, et vis-à-vis des autres, c'est pas la place dans une salle de cours. Donc comment réprimander, sans faire preuve d'autoritarisme, qu'ils comprennent et pour réussir à les faire grandir. Donc, c'est jamais simple. Mais avec l'empathie, avec de la bienveillance, on arrive à les faire progresser dessus.
Et ça peut être salvateur aussi bien pour l'élève, pour l'enfant précoce, que pour l'enseignant. Et là, je sais qu'il y a des collègues dans la salle. Il peut y avoir des situations que nous, en tant que profs principaux, parce que c'est aussi une des fonctions qu'on occupe, on est amené à désamorcer des situations parce qu'on a des élèves qui peuvent avoir des comportements très déstabilisants pour les enseignants qui ne sont pas au fait, qui ne sont pas conformés de son mode de fonctionnement.
Et quand moment-là, les enfants de potes sont capables de détecter très 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 rapidement et d'en faire de la guerre pendant toute l'année. Ils
s'inscrivent dans une faille et...
Voilà, c'est pas du tout destructeur. Si on n'arrive pas à l'expliquer à l'enseignant, ça peut être... Quand on parle de ça, on parle du coup, en même temps, du relationnel qu'il peut y avoir entre eux, avec les autres et avec les enseignants.
Donc là, c'est les profs principaux qui parlent.
Malheureusement, ça arrive régulièrement.
Donc effectivement, ils ont un côté très gamin, ça c'est vrai. Sixième, quatrième, on le voit très vite. On sait que les adolescents, parce que à la précocité s'ajoute à un moment, une période qu'on appelle l'adolescence. C'est ce que je veux dire. On sait que les ados peuvent être féroces entre eux. On parlait d'empathie tout à l'heure, qualité intrinsèque à chacun d'entre nous, mais ils font une certaine dose de maturité pour la développer, malgré tout. Et ils sont capables de se faire un mal fou par des petites phrases, et quand on connaît donc la rapidité, la diversité d'esprit, l'intelligence des précoces, ils trouvent la faille, pas que chez l'enseignant, ils trouvent la faille chez les petits copains. Donc les sont appelés les autres, pardonnez-nous, mais ceux qui ne sont pas HP. Les zèbres entre eux. Alors les zèbres, pour ceux qui sont qui lisent un peu les ouvrages de Jeanne Siofachin, c'est un terme qu'elle a inventé, mais qui désigne donc, parce qu'on ne sait plus, enfin moi je suis perdu, hein, entre EIP, précoce, surdoué il y a 20 ans, et on va plus pouvoir dire EHP, bon, voilà. Jeanne Siofachin les a baptisés les zèbres. Donc entre eux, ils sont aussi, alors ils se reconnaissent entre eux, ils sont capables, ils trouvent les mêmes centres d'intérêt, ils trouvent la même vivacité intellectuelle, donc ils sont capables d'être très copains, et à contrario, ils sont aussi parfaitement capables de se faire une guerre absolue. Donc, au sein d'une classe, en plus, on va avoir des luttes d'influence, des luttes de pouvoir, ils vont aller chercher des petits camarades pour les soutenir, et donc si on ne sait pas y mettre le holà très vite, ça peut devenir... assez chaotique, parce que le but étant quand même d'essayer de leur faire apprendre des choses. C'est ça le but au départ.
Et c'est vrai que par rapport à tout ça, on a aussi mis une petite image de la balance, parce qu'ils ont une estime de la justice qui est surdimensionnée, et ils sentent entre eux, s'il y en a un qui va dire quelque chose, si c'est pas ce qu'ils imaginaient, ça prend des proportions qui peuvent être juste gigantesques. Nous, en tant qu'enseignants, si on prend une sanction, qui est malheureusement pas celle qu'on aurait dû appliquer parce que le devoir a été rendu deux jours après, puis on met à 2 euros parce qu'on voulait le jour J. Ils vont prendre ça pour de la justice, ils vont nous faire payer sur le long terme. Donc,
faire en sorte qu'ils prennent pas le pouvoir.
Il faut faire en sorte qu'ils prennent pas le pouvoir, et c'est pour ça que le relationnel entre nous et eux est primordial et presque prépondérant par rapport aux apprentissages qu'on peut leur apporter. On leur apporte plus dans le relationnel, dans les discussions qu'on va avoir avec eux, que dans les réelles compétences institutionnelles qu'on devrait leur apporter. Parce que ça, ils arrivent à les mettre en place. Normalement, avec plus ou moins de difficultés, avec plus ou moins de temps, mais ce qu'ils ont beaucoup plus de mal à mettre en place, c'est les relations entre eux et les adultes, entre eux et les autres enfants qui ne sont pas achevés. Et on a un vrai gros travail, nous, de notre côté, les enseignants, à faire. Pourquoi je dis nous, de notre côté, les enseignants? Parce qu'un autre objectif pour beaucoup d'élèves, c'est de dire aux parents, laissez-nous faire, faites-nous confiance.
C'est, ça fait partie du contrat dont Frédéric parlait tout à l'heure, c'est un contrat avec l'élève, on l'a vu lorsqu'on est dans la bienveillance que le père comporte sur lui, et puis effectivement, quand on dit bienveillance, on sollicite aussi, parfois, souvent, tout le temps même la bienveillance des parents. Essayer de nous faire confiance. Alors ça ne veut pas dire qu'on est omnipotent et qu'on affirme ici un savoir-faire absolu. On a bien évidemment parfois des échecs, mais en tout cas on essaye, on prend des choses, on essaye d'aller vers une voie positive.
Et quand on parle de bienveillance, par rapport aux parents, on ne parle pas de laxisme. On explique bien aux parents que l'objectif du collège, du lycée, c'est d'avoir des notes correctes, mais les notes ne sont pas tout. Et quand on demande aux parents de laisser les enfants vivre, évoluer, oui, on sait, il y aura des moyens qui vont baisser, il y aura des catastrophes à certains moments, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment, alors on parle précisément du collège, parce que le monde est quand même un peu plus sur le collège, mais l'objectif c'est de leur faire traverser le collège pour qu'ils arrivent au lycée, qu'ils arrivent à trouver de réels centres d'intérêt, ce collège, ils ne sont pas tous unis dans là, et c'est ce qui est peut-être très difficile pour les enfants à gérer. Quand on arrive à mettre tout ça en place, on arrive dans le bonheur de s'épanouir.
Souvent, on va dire, en tout cas, il y a des bons moments. C'est vrai qu'on peut il peut y avoir des années chaotiques, effectivement. Et, bon, bah, je suis très content d'avoir revu quelques élèves, quelques anciens élèves ici, ils savent de quoi je parle. Mais on a quand même, malgré tout, à travers les moments de tension et l'accompagnement des élèves, on a quand même vécu des très bons moments. Notamment lorsque, en changeant le regard qu'on a sur l'élève, en acceptant beaucoup de choses, en ayant reconnu son mode de fonctionnement cognitif, sa personnalité, en le laissant exprimer son potentiel créatif. Alors ça, c'est quelque chose sans forcément rentrer dans les détails de l'institution, mais à part ceux qui font option musique, art plastique, plus au lycée, le potentiel créatif dans les mathématiques, bon bah... Après, on peut, je vous parlerai de quelque chose juste après, on peut, mais c'est pas la base de ce qui est dans les textes quand même. On demande de résoudre une équation ou de savoir qu'on a un problème, mais on ne demande pas de faire du Picasso. Mais lorsque, alors là on parle sous le contrôle des spécialistes en neurosciences, nous ne sommes effectivement que des enseignants, mais ce qu'on a essayé de bien apprendre notre leçon, le cerveau étant constitué de deux hémisphères, l'hémisphère gauche étant l'hémisphère où le siège, où se situe le siège de tout ce qui est analyse, réflexion, qui donne un fonctionnement plutôt séquentiel, linéaire, on va dire. Et puis le cerveau droit étant plutôt le siège de l'imagination, de la création, etc. Et on a de par notre fonctionnement global, pensée en arborescence, etc., ils utilisent pas mal leur cerveau droit pour coder justement les choses. Donc lorsqu'on leur permet, parce que effectivement dans les implicites des professeurs c'est pas toujours clair, lorsqu'on leur permet de coder les apprentissages qu'on leur propose d'une manière autre que la méthode classique, à savoir méthode 1, petit 1, petit a, fais comme ça et tu verras ça marche, ça ils adorent ça, en général. Pas tous, on l'a vu tout à l'heure avec les différents codages, mais si on leur laisse toute la potentialité de créer, d'improviser, on montrera quelques petites choses juste après, ils vont vraiment s'épanouir, prendre confiance en l'école, se dire que c'est pas forcément un endroit où on s'ennuie, et on les laisse prendre des initiatives. Il faut avoir là-dessus une liberté, j'allais dire totale, nous on essaye de l'avoir, c'est pas toujours vrai, mais en tout cas essayer d'avoir une grande liberté avec ça.
Donc pour parler d'un petit exemple, on a un enfant qui est actuellement en 3e, qu'on a depuis la 6e, et qui a une envie pour le futur. Je ne vous dis pas que vous n'arriverez à la trouver tout seul cette envie, et il nous l'a au début d'année. Comme tout début d'année, il y a une élection de délégués. Et d'habitude, on prend les 10 papiers, on met des noms, on fait des petits papiers, voilà. Ça s'arrête là, et on met des délégués comme ça. Sauf que cette année, on a eu un enfant qui a voulu aller un petit peu plus loin. Hop là. Alors, je vais essayer de vous la remettre au début, ce serait mieux.
Il faut éteindre.
C'est bon, je sais où les boutons maintenant. Donc voilà le type de prise d'initiative qui, bien évidemment, nous remplit d'une joie infinie, mais... L'idée étant, bien évidemment, là c'est pour devenir délégué, futur politicien, mais monsieur le sénateur nous a montré un très bel exemple de cette arborescence ce matin. Alors, essayez de... Donc là, pour ceux qui connaissent l'univers inférieur un petit peu des jeunes, hein, comme ils disent, enfin comme ils disaient il y a 5 ans, je suis jazzy. C'est des vidéos à la Norman ou comme Ted Adams a commencé comme ça. Nous, l'idée étant quand même de leur apporter quelques savoirs, savoir-faire et compétences. Donc, leur diversité intellectuelle fait qu'il faut essayer au maximum de les solliciter et surtout de les confronter à la difficulté. Parce que c'est lorsqu'ils seront confrontés à la difficulté qu'ils vont se rendre compte que leur stratégie d'apprentissage ne fonctionne pas. Et vu que personne n'aime être mauvais à l'école, c'est leur faire prendre conscience dans l'éducatif, toujours, qu'il faut qu'ils changent leur stratégie d'apprentissage, ou qu'ils y travaillent tout simplement. Tout le saut de classe, c'est une des possibilités. Tu peux peut-être en parler.
Le saut de classe, c'est une des possibilités quand on sent un enfant commence à s'ennuyer. Et on le voit assez facilement dans une salle de cours quand il est au collège, un enfant qui commence à s'ennuyer, il va commencer à bavarder, à embêter les autres, à chercher la poubelle, enfin quoi. On essaye de mettre en place des sauts de classe, mais quand on dit sauts de classe, il va passer d'un seul coup au niveau supérieur, c'est petit à petit. Ça va être avec des petites expériences en maths, en histoire. Et petit à petit, lui montrer qu'il y a un réel enjeu, il y a un réel attrait à aller plus loin, parce que, ben, intellectuellement, il demandera plus. Parce qu'au niveau de l'abstraction, il se rendra compte qu'au niveau au-dessus, il y a plus de choses qui sont abstraites, donc il y aura plus de choses qui vont le solliciter intellectuellement. Ces sauts de classe sont un des outils qu'on a pour réussir à attirer l'élève dans ses apprentissages, à le garder avec nous. Après, les sauts de classe ont des limites, parce qu'actuellement, on a certains enfants qui sont rendus à 2 sauts de classe, et là, on commence à dire 2 sauts de classe. Un troisième, ça commence à faire beaucoup. Bien que, actuellement, j'ai une élève qui est en 5e, qui a fait 2 sauts de classe, qui est passée de CM2 en 6e l'année dernière, en primaire, elle avait déjà sauté un saut de classe. Et là, elle est rendue à 6e de moyenne, elle est dernière de classe, et un troisième, ça me fait beaucoup. Alors, au niveau du collège, ce que je viens de dire juste avant, au niveau du collège, l'année dernière, on a eu des enfants qui sont passés de CM2 en 6e. Cette année, on a des enfants qui passent de CM2 en 6e là, un enfant qui va passer de 6e en 5e. Il y a
En cours d'année. En cours d'année, toi.
C'est mal. Quand on dit CM2 6e, alors je reprends. Quand on dit CM2 6e, c'est-à-dire qu'il passe de la CM2 à la 6e au mois de juin ou au mois de décembre. Voilà. Oui, et là, on en a actuellement, en ce moment, qui sont en train de le faire. C'est-à-dire qu'ils passent, on a 2 enfants qui sont passés la semaine dernière, 2 CM2 en 6e, et on a un enfant qui va passer 6e en 5e la semaine prochaine. Bien évidemment, il est accompagné. Sur tout le temps où il va le faire, ils sont accompagnés. Les enfants qui sont passés de CM2 en 6e, ils étaient dans les deux niveaux à partir de début octobre. C'est-à-dire qu'ils faisaient le cours de CM2, ils devaient faire tout ce qu'il avait à faire en CM2, plus faire le cours de maths et de français de 6e. Donc ça leur permet de se rendre compte qu'il y a un vrai défi à relever, qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et voilà. Et après, nous, on estime s'ils sont capables ou pas de le faire. Parce qu'il y a des enfants, l'année dernière, on a fait le test avec certains enfants, on a fait des sauts de classe sur certaines matières, et à la fin, on dit non, ils ne sont pas possibles, ils ne sont pas prêts à le faire, pour des problèmes de maturité, pour des problèmes de compréhension, parce qu'ils ont des facilités de compréhension, parce qu'elles sont suffisantes pour oublier un an. Pour passer plus rapidement sur un an complet de scolarité, ça fait beaucoup quand même. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui soient en place. On parle beaucoup avec les familles. Voilà.
Je ne sais pas si on peut le dire. On discutera à la fin.
Non, mais sur le Bourbon, on travaille sur Orléans au centre-ville, on est à l'établissement Saint-Paul, au centre-ville.
Mais je crois que ce qu'on est en train d'exposer là, c'est c'est une idée, enfin, ce sont des principes qui devraient pouvoir être appliqués partout, c'est-à-dire qu'il faut laisser une liberté dans la gestion de ces élèves précoces qui ont besoin d'un cursus différencié.
On est simplement dans le fait que tout le monde connaît les redoublements. Ça existe depuis très très longtemps. Donc on estime que si les enfants doivent prendre plus de temps pour faire la même chose, ça veut aussi dire que de l'autre côté de l'échelle, il y en a qui ont besoin de moins de temps pour faire la même chose. Donc s'il y a des redoublements, il peut aussi y avoir des sauts de classe. L'aménagement manque des deux côtés.
Parfois, il y a une... D'accord, oui, parce que oui, effectivement. J'ai compris, c'est moi qui parle. Pas que moi, je fais ça. Vous nous rachetez, excusez-moi. Il y a une autre manière de gérer, effectivement, on peut aussi conserver l'élève dans la classe en essayant d'aller au plus fort de la sollicitation intellectuelle. On a quand même affaire à des élèves qui, je parlais de leur maturité en début de présentation, et puis ils ont surtout une vraie volonté de comprendre le monde qui les entoure. Alors bah, pour ça, ils n'ont qu'à faire des maths, hein, c'est ce que j'ai envie. Bon d'accord, j'ai pas de succès, c'est pas grave. Mais ceci dit, c'est lié parce que ils ont besoin de faire des liens dans les apprentissages qu'on leur donne. Et en plus, là, on est au niveau collège, c'est-à-dire que on a une tendance à fractionner un petit peu le français d'un côté, les sciences physiques de l'autre, SVT, etc. Alors je sais que les textes nous enjoignent de travailler en interdisciplinarité, hein, ça j'ai bien compris. C'est pas toujours simple, pas toujours facile. Et quand bien même on le fait, selon les textes, ils ont besoin d'aller très loin, ils ont besoin d'aller plus loin. Ils se posent des questions sur la vie, sur le monde, des questions qui sont très poussées, parfois qui rejoignent la philosophie. On peut faire de la philosophie avec des élèves de 4e. Sans aucun souci. Ils sont d'une finesse d'esprit incroyable. Alors l'idée étant de connecter leurs questionnements et leurs interrogations avec les savoirs et savoir-faire qu'on veut leur inculquer. Et pour ça, les maths sont une... bon vecteur. Vecteur, pardon. Mais on va peut-être avancer. J'aurais dit... Je vais m'arrêter d'ailleurs. On n'est pas obligé d'insister trop sur ce point parce qu'on a d'autres petites choses à vous montrer. Mais c'est lié, c'est-à-dire que dès qu'on les lâche en disant aucune contrainte, j'ai besoin que tu me traites ce sujet-là. Ils peuvent donc avoir des initiatives telles que vous l'avez vu avec la présentation du délégué, mais ils peuvent nous faire des exposés parfois qui prennent des formes assez positive, il faut. Oui, tu montes maintenant. C'est parti. Par exemple, un tout petit exemple, on a fait un petit montage, il n'y a que 2 minutes, l'exposé faisait un quart d'heure. Hein. Un exposé sur Newton.
Alors, on ne verra peut-être pas très très bien, ils sont en train, on va avancer un petit peu. Ils ont commencé par faire une petite vidéo où ils expliquent des choses sur Newton. Et comme tout bon HP, il reste dans l'oral, il y a les définitions qui sont écrites au tableau, mais bon, les définitions, c'est pas l'important. C'est vraiment tout ce qui va être autour, ils sont dans l'adolescence. Donc les définitions, on les voit à peine, il va passer 2 secondes dessus. Et après, dans leur petite présentation, je vais regarder la suite, c'est le même. Sauf que c'est l'année dernière, c'était en 4e.
On n'entend pas trop, mais l'intérêt de la petite vidéo...
Alors, ça marchera pas mieux. Bon, c'est pas grave, vous voyez les images défilées par derrière, on va vous expliquer. Donc, il y avait d'abord une petite présentation où ils expliquent ce qu'est Newton, ce qu'il a fait, etc. Et après, le truc un petit peu plus ludique, mais ce qui retiendront mieux, ils se sont fait un petit jeu concours avec des questions. Deux élèves qui répondent aux questions, forcément les questions. Ça c'est fini. Et les questions, forcément les questions, c'est ce que vous donnez.
fait, ce qu'il a pu écrire, etc. etc. Mais dans ces questions-là, il y a aussi est-ce que Newton avait une femme, je vais pas aller jusqu'à ce qu'il a mangé, son dernier repas, ce qu'il a mangé, mais c'est des ordres d'idées. Donc ils sont capables de mélanger tout un tas de notions pour qu'on retienne l'important au final, parce qu'on tombe dans le lourd, parce que voilà, ils sont capables d'aller très loin.
Alors là, c'est vrai que vu qu'il y a la vidéo, vous avez compris que c'était l'une des compétences de notre petit HP blond, notre délégué, mais l'intérêt aussi, c'est de voir qu'ils sont capables de s'inscrire dans un travail de groupe, une émulation commune, et là, dans le groupe, il n'y a pas que des HP. C'est ça qui est très intéressant, ce qu'ils ont travaillé, il y a moitié-moitié, on va dire, et ils nous ont fait... Mais on a très, très souvent des exposés de très haut vol. D'ailleurs, vu que je l'ai rencontré dans le hall tout à l'heure, j'ai un ancien élève ici qui a concocté un exposé sur le Big Bang. C'était l'année précédente encore, donc l'origine de l'univers, etc. Où ils étaient d'une motivation sans borne, ils venaient travailler les midis, je leur ouvrais la salle info et on allait faire des recherches sur ordinateur. Ils ont fait une présentation où, clairement, je vous le dis, la totalité de la classe n'a rien compris. Le professeur prenait parfois un peu la flotte aussi. Mais eux se sont éclatés et ils ont acquis des connaissances que l'on s'est efforcé en tant que professeur de reconnecter avec le programme. Et aussi leur expliquer que les bases, pour pouvoir vulgariser un discours, il faut quand même extrêmement bien posséder son sujet et avoir les bases. Ça leur a permis de découvrir ça également. Oui. Et donc, pour conclure, parce que la dernière vie, c'est une forme de conclusion, on vit quand même, malgré tout, des situations en classe qui sont des situations de bonheur. Alors, bien évidemment, voilà, on vous a montré deux petites vidéos, mais au quotidien, on peut vivre ça parce qu'à partir du moment où on a réussi à reconnecter l'élève HP avec le bonheur d'apprendre, et la porte est ouverte à tout le monde. Mais pour le faire, il faut avoir une liberté pédagogique quasi totale. Et pour nous, enseignants, c'est extrêmement valorisant. Ça peut nous permettre de venir en classe sans avoir préparé un cours. L'improvisation est au cœur de ce que je suis en train de vous dire. Bien évidemment, je plaisante. Hein. Monsieur l'inspecteur, rappelez pas votre collègue de maths. Mais on est au cœur de la situation didactique qui peut avoir été préparée, mais qui doit être adaptée à la situation, à ce qui se passe à ce moment-là. Ça peut être ces fameuses petites phrases qui peuvent être très destructrices dans une classe sur laquelle le professeur rebondit et qui lui permet de faire une séance sur autre chose. Alors l'objectif de la séance n'est pas forcément atteint, mais en tout cas il en a atteint un autre qui va peut-être avoir lieu 2 mois plus tard. Après, on a des petites pistes un petit peu plus classiques, les travaux de groupe, à partir du moment où les HP sont bien connectés entre eux, ça fonctionne très bien en groupe, vous pouvez faire des fonds pour les enseignants, je sais pas. On peut faire des prolongements d'activités, et il y a une certaine forme d'émulation, il fonctionne énormément aux défis, il faut les mettre face à des challenges. Donc quand on arrive à créer tout ça au sein d'une classe, bien évidemment c'est valorisant pour nous, professeurs, parce qu'on a une classe où c'est une ruche, c'est de l'ébullition. Donc ça avance. Comme je vous dis, hein, on n'est pas forcément omnipotents, nos objectifs ne sont pas toujours atteints comme on le voudrait, mais en tout cas, on a réussi à reconnecter l'élève précoce avec le bonheur d'apprendre, et je crois que c'est l'un des enjeux majeurs lorsqu'on vit une précocité.